Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, la barque manque de s'effondrer, de sombrer dans la mer, dans ce lac. Et dites-vous bien qu'il ne s'agit pas d'une petite secousse avec un petit peu d'eau qui déborde. Il ne s'agit pas de ça. Nous avons affaire à des professionnels de la pêche. Les apôtres sont des pêcheurs professionnels, ils connaissent leur bateau. En grec, il est marqué « seismos », c'est-à-dire un séisme. Il s'agit d'une véritable tempête qui risque vraiment de faire sombrer la barque et de tous les tuer. Voilà ce devant quoi nous sommes aujourd'hui dans cette méditation, cette contemplation de l'Évangile, un séisme réel. Alors, cette barque, les pères de l'Église ne se sont pas privés d'en donner deux images évidentes. La première, c'est la barque de notre âme. Votre âme qui voyage en ce monde jusqu'à bon port, et c'est donc cette barque, c'est vous. Par ailleurs, vous le savez, représentée moult fois sur des tableaux, cette barque, c'est celle de Pierre, c'est-à-dire que c'est l'Église aussi. Alors, je vais utiliser ces deux images pour voir dans un premier temps pour qui sont ces vagues, ce qu'elles sont, comment nous préserver du mal, en un sorte. Et dans un deuxième temps, plus poétiquement, j'ai appelé ça « être et durer », ça veut dire comment, en faisant le bien, on peut se soutenir et passer à travers ces tumultes. Voyons d'abord ces vagues, les vagues de notre âme et les vagues de l'Église. Les vagues de notre âme, d'abord, trois dangers. Elles recouvrent, elles bousculent le séisme et elles peuvent faire sombrer. Elles nous bousculent, évidemment, ces vagues. Nous sommes sans cesse débordés, au sens propre comme au sens figuré, par l'activisme de ce monde, sans cesse entraînés par la rapidité de ce monde. Il faut répondre tout de suite, plus vite, grâce aux magnifiques moyens de communication. Vous n'avez plus une seconde de répit pour répondre à une question qui vous est posée. Et puis le monde n'aime pas que l'on s'arrête. Le monde n'aime pas qu'on réfléchisse, qu'on contemple, qu'on garde un peu de silence. C'est pourquoi toujours et partout, vous avez du bruit, de la musique, parfois les deux sont la même chose, des images, bref, une espèce de frénésie perpétuelle qui vous pousse et qui finalement vous empêche de contempler Dieu. Sachez bien que la première manière de se prémunir contre les vagues, c'est de s'arrêter. C'est de s'arrêter comme fait le Seigneur, il dort, c'est-à-dire qu'il contemple intérieurement, il s'abstrait de ce monde bruyant et pervers pour se protéger du mal. Le séisme, ce sont les coups durs de la vie, les intempéries fortes, les ébranlements de notre vie. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup car, comme le dit Mère Teresa, le Seigneur ne nous a pas promis un voyage sans encombre. Il nous a promis une arrivée certaine. Et les chrétiens, de par leur union à Dieu, ne sont pas comme des petits agneaux tout doux, des anges qui d'un seul coup seraient menés au ciel comme ça. Non, nous sommes de cette humanité, nous sommes des hommes comme les autres, ou plutôt nous sommes même les autres. C'est-à-dire que eh bien, nous sommes achoppés aux difficultés de la vie, aux méchancetés de ce monde, à celles qui nous ébranlent. Il y en a de nombreuses. Il y a celle de l'extérieur, bien entendu, ceux qui nous détestent. Et un chrétien, bien sûr, ne part pas en guerre sans cesse contre ses ennemis. Mais ça ne veut pas dire qu'un chrétien est naïf. Comme le disait un auteur spirituel avec beaucoup d'humour, Monsieur Escrivá de Balaguer, il disait un chrétien n'a que des amis. À droite, des amis qui lui ont fait ou qui lui ont voulu du bien. Et puis à gauche, des amis qui lui ont fait ou qui lui ont voulu du mal. Voilà, nous ne sommes pas invités à être idiots, nous sommes invités à ne promouvoir que le bien, ce n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, la barque de notre âme peut sombrer, oui, mes bien chers frères, elle peut sombrer dans la déprime, maladie ô combien présente autour de nous, dans la mélancolie. Cette déprime peut arriver par l'inaction comme par l'action d'ailleurs. Je vous donne un moyen déjà de combattre très en avant ce danger de l'âme qui commence par la tiédeur en général, c'est de rendre grâce à Dieu souvent. si vous rendez grâce à Dieu tous les soirs, si en vous couchant vous rendez grâce à Dieu, que vous êtes encore vivant, qu'il vous a donné la vie, qu'il y a eu des choses magnifiques dans la journée, qu'il y en a eu des moins bonnes, mais que vous les regrettez, et que demain ça ira mieux, eh bien, en vous remettant au Seigneur, vous allez éviter les écueils terribles qui font sombrer l'âme, l'orgueil, le désespoir et la mélancolie. Voilà comment nous prémunir pour n'arriver pas à ces extrémités terribles et qui nous fendent le cœur, qui peuvent aller jusqu'au suicide, vous le savez bien. Il nous faut nous prémunir, nous ne sommes pas préservés par avance, nous sommes dans ce monde en plein combat, il nous faut nous préserver du mauvais. Et l'Église aussi. L'Église connaît les mêmes dangers. Être recouverte par les vagues, être recouverte d'immondices. Recouverte d'immondices, soit qu'elles viennent de l'extérieur, et nous ne manquons pas de gens qui ne se privent pas de vomir sur l'Église, de vouloir la détruire, de celui qui voulait détruire l'infâme, c'est notre ami Voltaire, jusqu'à ses descendants aujourd'hui dans toutes les sectes diverses et loges. Il ne se manque pas aujourd'hui encore de gens qui veulent faire couler l'Église. Mais malheureusement, mes bien chers frères, les plus gros dangers, les vagues les plus ignobles et les excréments les plus affreux viennent de notre cœur. Ils viennent de nous-mêmes. Quand je manque à l'Église, quand moi-même je salis ce corps immaculé qui est celui du corps mystique du Christ, par mon péché, mon infidélité et ma tiédeur. Alors oui, ce séisme peut renverser, peut faire basculer l'Église. Alors il faut vous rassurer, mes bien chers frères, ça a toujours existé. Et on peut perdre la foi même. Si vous faites un peu d'histoire de l'Église, au IVe siècle, 70% des évêques sont ariens, c'est-à-dire 70% des évêques sont hérétiques. Bon, Dieu merci, nous n'en sommes pas là, c'est dans nos temps, mais il ne faut pas s'inquiéter que tout le monde puisse errer et ne pas garder la foi droite. N'ayez pas peur, car le troisième danger qui est de sombrer n'est pas promis à l'Église. Le Seigneur a promis à son Église qu'il la maintiendrait jusqu'à la fin des temps, que les portes de l'enfer ne prévoindront point contre elle. Alors ne vous laissez pas abuser, ne vous laissez pas amuser par des nouvelles toujours plus alarmantes et plus horribles, par ceux qui cherchent sans cesse à remuer la vase. Je parle, il y a beaucoup de sites, hein, je ne vous les cite pas, ce n'est pas la peine, vous les connaissez, dans lesquels on peut se faire peur et penser que ça y est, la fin du monde est arrivée. Ne vous inquiétez pas, si la fin du monde est arrivée, vos fronts sont marqués du signe de l'agneau, vous survivrez. Voilà pour les dangers qui arrivent. Alors comment être enduré ? Je le dirai d'une seule manière, il nous faut nous soutenir humainement, il nous faut nous soutenir spirituellement. Il nous faut bien sûr nous soutenir humainement et spirituellement, c'est une seule et même chose en fait, car nous sommes faits pour nous entraîner vers le ciel. D'abord, évidemment, tous ceux qui ont reçu le sacrement du mariage, sacrement par excellence, qui est celui qui reçoit quelqu'un en qui on s'abandonne, et donc qui est fait pour se tenir devant Dieu, qui est fait pour aller vers Dieu. Alors, bien sûr, mes bien chers frères, ce n'est pas le sacrement qui opère cela. C'est la fidélité humaine qui est la vôtre, qui va permettre au sacrement de s'appuyer sur votre bonne nature humaine. C'est-à-dire qu'il vous faut combattre pour être fidèle, pour désirer la vie, pour vivre uniquement et essentiellement avec votre époux et votre épouse, pour vous soutenir l'un l'autre, pour vous regarder avec bonté, avec douceur et avec amour. Tout cela, c'est le terrain sur lequel le Seigneur pose sa grâce divine, le sacrement du mariage, qui va magnifier vos relations. Bien sûr, c'est ainsi que vous allez passer à travers les vagues, à travers les séismes, et que vous non plus, vous ne sombrerez pas. Les prêtres, les religieux, les religieuses, je mettrai à part les religieux, les religieuses qui ont des communautés et qui se soutiennent les uns les autres, mais je ferai un mot particulier pour les prêtres diocésains. Car, mes bien chers frères, mon soutien à moi, c'est la mission que l'Église me confie. Bien sûr, c'est très joli de dire qu'il y a un mariage mystique avec l'Église, mais c'est quoi exactement ? En clair, je ne suis pas marié. En clair, je n'ai pas d'enfant. est connue ou inconnue, j'en ai pas. Mais mes enfants, c'est vous. C'est-à-dire que c'est vous qui me donnerez de vivre mon sacerdoce. Là où je dois m'appuyer, là où je dois trouver un soutien, ce n'est pas la hiérarchie de l'Église qui me donne mon pouvoir. Effectivement, si, elle me donne mon pouvoir. Mais ce n'est pas ça qui me soutient dans l'être de prêtre, dans l'être sacerdotal. C'est vous. C'est l'amour que vous avez pour vos prêtres. C'est la prière que vous avez pour vos prêtres. C'est la correction fraternelle que vous adressez à vos prêtres de tout cœur et comme des enfants fidèles qui fait que vos prêtres vont se soutenir et soutenir la barque de Pierre qu'ils ont charge de gouverner. Voilà, mes bien chers frères, comment on combat humainement et spirituellement. Il y a encore un moyen qui est pour tous le même, et c'est celui de la foi. Il nous faut désirer la foi. Il nous faut travailler notre foi. C'est ce que dit le Seigneur à ceux qui le réveillent. Il s'étonne. Il leur dit deux choses. Pourquoi avez-vous peur? Vous le savez peut-être, c'est le commandement qui revient le plus souvent dans la Bible. Plus de 360 fois dans la Bible, il se trouve ce commandement « N'ayez pas peur » ou « Pourquoi avez-vous peur ?» Notre nature humaine blessée a peur de tout, a peur de Dieu, a peur de la mort et parfois même a même peur de la vie. « N'ayez pas peur, c'est le Seigneur qui vous fait vivre. » Cette foi, il faut l'ancrer profondément. Il faut lutter contre tous les doutes. Je vous le dis, le doute n'est pas bon. Le doute est un péché. Bien sûr, si vous doutez, vous pouvez passer au travers et vous pouvez renforcer votre foi. Les doutes ne sont pas en eux-mêmes des péchés. Le péché, c'est-à-dire la question que vous posez n'est pas un péché, c'est de donner crédit à ce doute qui devient mauvais. Par exemple, dans le mariage, il vous arrive peut-être de passer dans votre tête que votre époux, votre épouse ne vous a pas suffisamment regardé, qu'il considère quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est une idée perverse qu'il faut jeter au loin. Il vous faut donner la confiance et avoir foi en Dieu comme dans votre conjoint. C'est la même chose. Pour s'appuyer, il faut pouvoir s'abandonner. Alors, rejetez le doute avec force. Ne vous laissez pas faire accroire par les vendeurs de doutes, les philosophes modernes, qui pense que c'est là l'élévation supérieure de l'âme. L'élévation de l'âme, c'est la foi. Le doute ne vous fera que plonger dans la fange. Il vous faut demander la foi. Elle est déjà dans votre cœur, vous l'avez reçue au baptême. Alors il suffit de l'arroser, d'en prendre soin, de lire la saine doctrine, de pratiquer la foi, et c'est ainsi que votre foi grandira. Ne vous y trompez pas, quand vous rencontrerez quelqu'un qui vous dira « j'ai plus la foi », c'est dommage, mais j'ai plus la foi, c'est qu'il ne prie plus. Alors évidemment, si vous avez une orchidée chez vous, qu'il n'y a plus d'air, plus de lumière, plus d'eau, eh bien, elle crève. Il faut pouvoir entretenir votre foi. Demandez la grâce, cette force d'âme qui veut que j'entretienne sans cesse ma foi, une foi intangible. Une foi qui ne pourra pas sombrer, comme le disait Jean-Paul II, une foi sans aucun doute, une foi grosse qu'on pourrait trancher au couteau, une foi inébranlable. Voilà ce que nous désirons. Je le sais, mes bien chers frères, c'est déjà ce que vous désirez, car en venant ce matin à la Sainte Messe, vous n'êtes pas venu accomplir un précepte dominical d'abord. Bien sûr, vous accomplissez un précepte dominical, mais la messe n'est pas d'abord obligatoire, la messe est d'abord nécessaire à notre âme. En communiant dans un instant, vous allez recevoir l'auteur même de la grâce, la foi elle-même vous sera donnée par celui qui en est l'objet, le Christ va fortifier votre âme et vous faire tenir contre vents et marées jusqu'au paradis. Ainsi soit-il.